Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans Sans Rendez-vous, votre émission santé, bien-être du lundi au vendredi en direct de 15h à 16h. Alors comme tous les jours, dès 15h, il se tient prêt à mes côtés pour vous chouchouter, vous faire du bien. C'est le docteur Jimmy Mohamed. Bonjour Jimmy.
Bonjour Mélanie, bonjour à tous.
Alors au sommaire aujourd'hui, dans notre grand dossier du jour, nous allons parler de recherche de sens. Face à la pandémie et à l'incertitude, nous sommes nombreux en ce moment à ressentir le besoin de redonner du sens à notre vie et de réinventer la relation. Et justement, pour cela, nous pourrions nous appuyer sur nos intelligences multiples avec lesquelles nous venons tous au monde. Oui, oui, et selon notre invité du jour, Christophe Bourgois, nous en avons même 10 d'intelligence chacun. Et c'est le titre de son livre, Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, paru aux éditions First. En ces temps de crise, il va nous aider à aborder ce qui arrive avec davantage de confiance. Ensuite, dans notre chronique Les Bobos du quotidien, le docteur Jimmy Mohamed nous parlera aujourd'hui du pouvoir, des pouvoirs du rire. Et oui, on a décidé de vous faire du bien aujourd'hui et du bien, vous verrez, en riant particulièrement à votre cerveau. Alors, ensuite, vers 15h50, hein, comme tous les jours, nous retrouverons Catherine Blanc et sa chronique sexo. Aujourd'hui, elle répondra à un couple très inquiet d'une proposition qui pourrait surgir venant d'un autre couple d'amis.
Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed vous reçoivent sans rendez-vous sur Europe 1.
Tout de suite, pour ouvrir votre magazine santé, c'est le vrai faux, vos questions au 3921 sur le répondeur d'Europe 1. Et donc, on va démarrer par cette question d'Olivia. Écoutons-la.
Bonjour Mélanie, bonjour Jimmy. Alors moi, j'accouche bientôt, c'est mon premier enfant et je lis pas mal sur le sujet et j'ai vu que dans les maternités, on avait tendance à forcer un peu les choses en faisant des perfusions, je crois que c'est d'oxytocine, quelque chose comme ça. Mais ça accélère l'accouchement, il me semble, et c'est pas vraiment très bon pour le bébé. Alors est-ce que je peux refuser cette injection ? Merci d'avance pour votre réponse et continuez comme ça, j'adore votre émission.
Merci beaucoup Olivia, c'est très gentil. Alors pour vous répondre avec précision, on a interrogé pour vous un spécialiste du sujet. Écoutons ensemble le docteur Cyril Huissou, il est gynécologue obstétricien au CHU de Lyon.
L'ocytocine, qui est un médicament, c'est avant toute chose en fait une petite protéine cérébrale qui joue le rôle d'hormone au moment de l'accouchement. Mais il arrive parfois que l'accouchement soit plus difficile, que la dilatation du col ne se fasse plus, et pour éviter une césarienne, on peut être amené à utiliser cette hormone qui est fabriquée de manière synthétique, c'est pas une hormone d'origine humaine. Ça permet de redonner un petit coup de boost à l'utérus et ça permet de favoriser l'accouchement dans des situations où on pourrait se poser la question d'une césarienne parce que le travail n'avance plus. C'est un médicament qui est en principe très bien toléré par la maman et très bien toléré par le bébé. Il n'y a pas de risque pour le bébé à une utilisation adaptée à la situation clinique. Une patiente peut parfaitement refuser. À nous de lui expliquer et de faire preuve de pédagogie la raison pour laquelle on envisage de mettre ce traitement. Parce que généralement, les mamans qui ont recours à ce type de médicament, elles ont encore moins envie, évidemment, d'une césarienne.
Voilà, c'était les précisions du docteur Huissou au micro de Valentin Piovesan. Alors Jimmy, on va passer à une autre question du jour, hein, celle que nous a laissée Diego pour vous. Écoutez bien.
Salut Jimmy, salut Mélanie. Jimmy a alerté sur Twitter sur les risques des sièges chauffants dans les voitures ou scooters par rapport au fait que ça peut entraîner des hémorroïdes. Est-il vraiment sérieux ? Comment ça pourrait bien causer ça ? Je comprends pas trop.
Alors Jimmy, il demande si vous y étiez vraiment sérieux. J'imagine que oui, parce que vous êtes toujours très sérieux. C'est une alerte que vous avez lancée quand il faisait un petit peu plus froid. D'ailleurs, en ce moment, on a des beaux jours, mais c'était pas une blague. Les sièges chauffants peuvent vraiment provoquer ça, des hémorroïdes ?
Oui, alors je sais pas si c'est vraiment une alerte. En tout cas, j'ai préféré transmettre...
Vous êtes un lanceur d'alerte, Jimmy, oui.
Parce que j'en ai été victime, malheureusement. Il faisait froid.
Ah, voilà, on sait
et
tout.
Exactement. Et donc, il faisait
même
froid.
Mais ça arrive au meilleur. Ça arrive au meilleur.
On arrive dans la voiture, il fait très froid. J'avais la chance d'avoir à ce moment-là une voiture où il y avait des sièges chauffants. Et donc, je me suis dit, c'est agréable. J'ai envoyé un texto à un ami chirurgien. Je lui dis, écoute, c'est super. J'ai moins froid aux fesses. C'est super. Mais il me dit, mais attention, ça entraîne une vasodilatation des vaisseaux sanguins. Et donc, c'est un facteur majeur d'hémorroïdes. Mmh. Effectivement, en fin de journée, il y avait un certain inconfort.
Ça picotait.
Et donc, c'est vrai que le siège chauffant, valable sur la voiture ou le scooter, peuvent donner des hémorroïdes.
Ça, c'est bien, c'est de la médecine vécue, hein, Jimmy. Donc, en gros, il faut éviter donc, les sièges chauffants, ça on comprend, pour l'histoire de vasodilatation. Voilà. Mais est-ce qu'il faut éviter finalement tout ce qui serait un peu chaud dans cette zone un peu intime ? En fait, c'est quoi les facteurs de risque finalement d'hémorroïdes ?
Alors, il y a tous les facteurs d'hyperpression abdominale, c'est-à-dire que lorsque vous allez tousser, par exemple, ça va entraîner une pression supplémentaire au niveau des vaisseaux et faire que les hémorroïdes vont être externalisées et vont parfois s'encombrer et donner les douleurs que vous pouvez avoir.
Si je porte un pantalon trop serré, peut-être,
un
non
peu moins,
non,
mais c'est l'hyperpression et notamment l'obésité, le fait d'avoir un gros ventre, ça peut entraîner ça. Et puis, si vous faites des efforts de pousser, notamment lorsque vous êtes constipé, vous pouvez avoir des hémorroïdes. Et à l'inverse, la diarrhée, lorsqu'elle est très importante, elle peut donner une irritation et provoquer des hémorroïdes. Enfin, quelque chose que je ne connais pas, quand on fait de la musculation, de l'haltérophilie,
les efforts
de pousser importants peuvent aussi déclencher des crises d'hémorroïdes.
Alors pour ceux qui ne sauraient pas, est-ce que d'ailleurs les hémorroïdes, on sait toujours qu'on en a, parce que est-ce que c'est forcément douloureux ?
On a tous des hémorroïdes, ce sont des vaisseaux sanguins qui permettent d'irriguer tout simplement la muqueuse au niveau du rectum. La seule chose, c'est que parfois, il y a un trouble de la circulation,
le sang stagne, ça gonfle
et c'est douloureux. Et à ce moment-là, on fait la crise hémorroïdaire. Même si les hémorroïdes, à la base, c'est pas une maladie.
Oui, donc on a des hémorroïdes, mais pas forcément des crises. Quand on a, pour le coup, la crise, comme vous, Jimmy, et que c'est douloureux, qu'on n'en peut plus, comment on traite ça rapidement ?
Alors, tout d'abord, si jamais vous avez des saignements, ça peut arriver, ça peut être un facteur d'hémorroïdes, il faut malgré tout aller voir le médecin, car vous avez le droit d'avoir à la fois des hémorroïdes et un cancer du rectum qui saigne. Et donc,
il faut
montrer vos fesses au médecin généraliste, peu importe, puisqu'il doit examiner et savoir si, oui ou non, vous avez une hémorroïde. Ensuite, on donne des médicaments contre la douleur, souvent des crèmes avec des crèmes anti-inflammatoires et des antidouleurs. On régularise le transit, car le fait d'être constipé peut donner des hémorroïdes. Et en règle générale, ça passe. Et parfois, on est obligé, lorsque l'hémorroïde est thrombosée, c'est-à-dire lorsqu'il y a un caillot qui s'est formé au niveau de la veine, de faire une petite excision et donc de vider l'hémorroïde pour être soulagé. Et c'est le spécialiste qui fait ça.
Bon, vous en êtes sorti, on peut s'en sortir. Merci beaucoup, Jimmy. Alors si vous aussi, comme Diego, qu'on vient d'entendre, voulez nous laisser vos questions santé, bien-être, 39-21, 50 centimes d'euros la minute, surtout n'hésitez pas.
Europe 1, sans rendez-vous. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Très heureuse de vous retrouver dans Sans Rendez-vous, votre émission Santé-Bien-être. Nous sommes ensemble comme chaque jour jusqu'à 16h. Alors c'est le moment d'accueillir en studio avec nous notre invité du jour. C'est vous, Christophe Bourgois. Bonjour.
Bonjour Mélanie.
Vous êtes
bonjour Jimmy.
Psychopraticien, spécialiste du comportement humain et des intelligences multiples. Vous êtes également l'auteur du livre Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, qui vient de paraître donc aux éditions First. Alors Christophe Bourgois, pour commencer, il faut savoir que vous accompagnez de nombreuses personnalités, Raphaël Nadal, François Pinault, qui est quand même la quatrième fortune de France, le cuisinier Thierry Marx ou encore la championne de foot Marinette Pichon. Qu'est-ce qu'ils ont en commun, toutes ces personnalités ?
Alors déjà, en précision, j'en accompagne certains, mais surtout, j'accompagne plein de gens très différents. Il se trouve qu'en ce moment, il y a une vague de politiques, de personnalités politiques qui viennent me voir, mais j'ai des gens fracassés par les parents qui ont 20 ans. Donc ça, c'est vraiment...
Vous ne voyez pas que des stars.
Exactement. Et en plus, si vous voulez, elle m'avait servi dans un premier livre, effectivement, à parler du concept d'intelligence, parce que nous souffrons en France, vraiment, d'être dans une monoculture. Voilà, on est bon dans quelque chose... où on n'est pas bon dans l'autre. C'est un peu cette culture du « ou » en France. On est soit ça, soit ça. Et ce qui m'a semblé passionnant, si vous voulez, c'est que dans tous ces champions que j'ai pu côtoyer ou interviewer, il y en avait 650 au total dans ma vie, donc encore une fois, très différents les uns des autres. Ça va même jusqu'à Luc Ferry, Jean Todt. J'ai adoré, à l'époque, Mélina Robert-Michon, quand je l'ai interviewée, donc une championne de foot. Mais avec Brigitte Lahaye, ça a été la même chose. Il y a une chose qu'ils ont en commun, c'est l'intelligence relationnelle. C'est-à-dire, ce sont des gens qui aiment les autres, qui ont cette capacité d'écoute, donc derrière qui conduit à l'intuition, etc. Et c'est ça qui m'a passionné. C'est comment, qu'est-ce que l'intelligence relationnelle ?
Et par exemple, alors je pose les pieds dans le plat, mais pourquoi est-ce que Raphaël Nadal aurait besoin de vos conseils ? Qu'est-ce qu'il a pu avoir grâce à vous ? Qu'est-ce que vous lui avez dit pour être peut-être plus performant ? Ou est-ce que c'est des conseils, même dans sa vie personnelle ? Parce qu'on a parfois du mal à identifier le principe de coach.
Alors, Rafa Nadal, c'était des échanges. Qu'est-ce qui m'a frappé dans les échanges avec lui ? C'est qu'un coach, malheureusement, c'est trop galvaudé. Nous souffrons de ça. Un coach, c'est tel que je le conçois, c'est une forme de thérapie brève. C'est-à-dire, en 10, 12 séances, c'est réglé. C'est réglé pourquoi ? Parce que, en fait, quand quelqu'un fait la démarche de comprendre qui il est, c'est déjà 50% de gagner. Le reste, c'est de l'écoute, de la reformulation, de faire comprendre en fait, que les idées sont à l'intérieur de la personne. Qu'est-ce qui est intéressant avec un cas comme Rafa Nadal ? C'est que si on était des entraîneurs français, et d'ailleurs il l'écrit, tout le monde l'écrit, même le dernier livre de Gilles Simon, c'est que les types sont dans une pensée unique. Ah ben frappe la balle, plie les genoux, blablabla, blablabla. Mais en fait ça sert à rien. D'abord la balle elle va trop vite pour l'œil, consciemment on la voit pas, c'est la rétine derrière. Et qu'un type comme Rafa, il la regarde pas la balle, il l'écoute. C'est beaucoup plus précis.
Espèce d'intelligence rythme-musique,
cette intelligence de rythme et de la musique qui faisait que lorsqu'on venait au monde, lorsqu'on était homo sapiens sapiens et qu'on était dans nos grottes, est-ce que vous savez tous les deux pourquoi on chante des berceuses aux enfants ?
Moi, ça nous apaise, mais je sais pas, j'en sais pas bien plus.
Parce que justement, bien vu Mélanie, parce que lorsque nous étions dans nos grottes, on postait quelqu'un devant l'entrée de la grotte qui chantait pour éliminer le danger. Et donc, tant qu'il chantait, il n'y avait pas de danger, on pouvait dormir. Donc, toutes ces intelligences-là que nous avions avant, avec lesquelles nous venons au monde, permettent d'équilibrer les choses, si vous voulez, de se réinventer. En plein Covid, vous êtes sur une monoculture. Si vous êtes déstabilisé dans votre job, vous avez l'impression de ne pas exister, alors qu'en fait, vous existez 10 fois.
Dans votre livre, d'ailleurs, vous parlez de la musique, du son, qui a des pouvoirs extraordinaires. Vous avez parlé de la musicalité avec Raphaël Nadal, mais pour nous tous, c'est quoi les pouvoirs extraordinaires de la musique ?
Eh ben, si vous voulez, c'est que elle met en jeu beaucoup de choses. Elle met d'abord en jeu le corps. Et le corps, si vous voulez, le corps humain, vous parliez totalement d'hémorroïdes, c'est le siège des émotions. C'est le siège des émotions. D'ailleurs, allez sur Internet et vous regardez le cabinet Aalto, qui est un cabinet finlandais. Ils ont fait des études depuis 5 ans et ils ont cartographié dans le corps là où se situaient les émotions. Elles sont toutes dans le corps. Donc la musique, déjà, elle permet de connecter le cerveau au corps. Vous voyez, de connecter l'âme et de favoriser cet axe tête-cœur-corps.
Alors là, on a parlé de certaines personnalités ou des champions hors normes, comme Raphaël Nadal, mais est-ce qu'on a tous ces 10 intelligences ? Puisque parfois, on peut en identifier une ou deux au maximum chez soi. Mais
Jimmy, c'est qu'il a, je ne sais pas s'il y a une intelligence scientifique, mais...
Vaguement. Jimmy, il n'a pas d'intelligence. Nous sommes programmés pour venir au monde avec 10 intelligences. Ça, c'est une certitude médicale et d'imagerie médicale. Après, au fur et à mesure qu'on développe notre activité, on s'y connecte ou on ne s'y connecte pas. Mais quand vous faites la cuisine, Jimmy, par exemple, vous en mettez plusieurs en œuvre. Toute la différence, c'est de le conscientiser. Qu'est-ce que je mets en œuvre quand je fais la cuisine ? La relation.
Mais pourquoi on n'en parle pas depuis plus longtemps, puisqu'on est tous nés avec depuis la nuit des temps,
mais
vous dites.
Parce qu'en France, on est encore une fois dans une monoculture dirigée par des gens qui, on doit rentrer dans des cases. En Finlande, ça n'existe pas. Au Danemark, ça n'existe pas. En Afrique, ça n'existe pas. Au Japon, ça n'existe pas, ce mode cartésien de la réussite. Et si vous voulez, en plus, nos parents qui avaient souffert pendant les 30 Glorieuses, qui voulaient s'élever socialement, ils se sont dit, on va foutre nos gamins dans les maths. Parce qu'il n'y a que ça, c'est la voie royale. Ils vont pouvoir devenir médecin, blablabla. Mais en fait, la plupart des gens qui exercent un métier, des gens que je coach, font un métier qui ne leur ressemble pas.
Bon, ça,
en fait,
terrible,
ils font un métier soit par opposition aux parents, soit dans le droit fil de ce que voulaient les parents. Et le but, c'est de trouver sa voie tiers. C'est-à-dire, c'est d'arriver sur cette planète, je ne sais pas combien de temps ça dure, notre vie, à chacun, et de se dire, waouh, mais qui je suis vraiment ? Mais qui je suis vraiment ? Et je trouve que c'est formidable de quitter un jour ce monde en sachant ce qu'on nous sommes vraiment, et les intelligences nous y aident.
Christophe Bourgoin, on va poursuivre cet entretien dans quelques minutes. Vous restez bien sûr avec nous.
Sans rendez-vous, 15h-16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Nous sommes ensemble jusqu'à 16h pour votre émission Santé-Bien-être, une émission sans rendez-vous. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Alors notre invité, toujours en studio avec nous, c'est vous Christophe Bourgoin. Je rappelle que vous êtes psychopraticien, spécialiste du comportement humain et également l'auteur du livre dont on parle aujourd'hui, Les secrets de vos 10 intelligences pour redonner du sens à votre vie, qui vient de paraître aux éditions First, justement pour développer tout notre potentiel. On en a déjà parlé un petit peu tout à l'heure. Redonner du sens à sa vie. Il y a une intelligence qui est primordiale, vous dites, c'est l'intelligence relationnelle. Pourquoi ?
Elle est clé parce qu'en fait, si vous voulez être en relation avec l'autre, il faut d'abord être en relation avec soi. Il y a une phrase extraordinaire, je vous raconte une anecdote, j'avais vendu ma boîte, j'avais beaucoup d'argent, je ne sais pas quoi foutre. Donc je postule pour rentrer à HEC, pour être coach, et là je suis sélectionné parmi les 20 qui vont suivre la formation. Donc je suis dans le grade, ouais, le roi n'est pas mon cousin, quoi. Mon ego me rattrape en disant pop, 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 HEC, machin. On arrive, le maître Yoda de la conférence est là, et il dit, c'est celui qui dit qui est. Je me dis, putain, j'ai quand même pas payé 15 000 euros une conférence pour m'entendre dire, c'est celui qui dit qui est. C'est la phrase la plus forte que j'ai jamais entendue dans ma vie. C'est-à-dire qu'en fait, l'intelligence relationnelle, c'est qu'est-ce que je vois chez l'autre qui m'énerve chez moi ? Donc, même votre pire ennemi devient un allié.
Oui.
C'est-à-dire, à chaque fois, vous dites, waouh, c'est une philosophie de vie. Hein. C'est donc, d'abord, je donne des clés dans ce livre de comment se connaître soi, comment s'aimer soi. Et à partir du moment où on sait aimer, on n'est plus dans la projection vers l'autre, on est complètement dans l'écoute de l'autre et dans le « c'est celui qui dit qui est ». Qu'est-ce que l'autre me dit que je n'aime pas chez moi ?
C'est génial.
Le problème, c'est que malgré tout, alors qu'on peut écouter, on est dans un monde où on a besoin de normes, on fait l'éloge des chiffres et parfois ça peut être un frein pour relationner, vous dites. Qu'est-ce que ça veut dire par là ?
Un exemple, je crois qu'un maire en Essonne, une sorte d'arrêt de bus.
Il y a un maire génial en Essonne qui s'appelle Christian Schottel, qui est un bon ami, pour vous montrer. Mais c'est toujours la monoculture, si vous voulez. Lui, à un moment donné, il se dit, il y en a marre, je vais créer un arrêt de bus sur l'autoroute qui passe à côté de ma commune.
Oui. C'est un peu fou, là, pour l'instant, je trouve.
Mais 15 ans de démarche administrative, il a fini par l'avoir. Donc, il y a 1000 personnes qui empruntent tous les jours cet arrêt de bus. Mais, si vous voulez, en France, on est dans cette espèce de pensée unique, dogmatique. On ne peut pas s'en sortir. Par exemple, l'un d'entre vous, vous deux, vous émettriez une hypothèse. À partir du moment où il n'y a pas 150 000 mecs qui ont validé votre hypothèse, elle ne vaut rien. Mais est-ce que Newton, il a attendu 150 000 pommes avant de créer la gravitation? Mais pas du tout. On souffre des datas. Qu'est-ce qu'on en a à foutre que Neymar, il soit 60% du temps dans la zone entre machins, puisque d'un coup de génie, il peut être à l'autre bout. Et d'ailleurs, j'ai un journaliste sportif qui m'a dit « On sort des datas parce qu'on ne sait pas quoi dire. C'est pour meubler l'antenne. » Mais oui, parce qu'en fait, ça ne veut rien dire. C'est factuel. Vous croyez que Nadal, il pense qu'il y a en face, le mec va monter 17, une fois sur 4 au filet? Non, il n'en a rien à faire.
Il s'en fout. Dans votre livre, vous écrivez aussi qu'il faut se demander, c'est important dans la vie, quelle est finalement, pour nous, la personne la plus importante au monde. Pourquoi il faut se poser cette question?
Mais parce que c'est la question clé. C'est une question que je demande à chaque début de coaching.
Moi, j'en ai plusieurs, vous me la poseriez, je dis c'est mes enfants, quoi, c'est
et
tout.
Non, Mélanie, la personne la plus importante au monde, c'est vous. Et rien d'autre que vous, pour vous. Parce que si vous allez bien, tout le monde irait bien. Mmh. Et c'est un vrai questionnement. C'est-à-dire, les gens ont du mal à...
Il n'y en a aucun qui vous répond, c'est moi.
Des champions. Ou même non, des gens, des cadres. Ou tiens, en ce moment, je coach une femme politique et députée. Elle m'a dit, c'est moi. Et on sent que c'est...
C'est là où on est un winner ou on n'en est pas un.
Non, c'est pas cette question de winner. C'est qu'il y a tellement de facteurs, Mélanie, dans votre enfance. Peut-être que par rapport à votre place dans la fratrie. Vous savez, cette notion de... Mais est-ce que je suis légitime? Est-ce qu'on m'aime? Est-ce qu'on m'aime tel que je suis? Moi, j'ai des coachés qui arrivent en disant... Ma mère, elle m'adorait. Ah bon? Pourquoi? Bah oui, elle arrêtait pas de m'encenser. Donc je dis donc, elle vous aimait pas tel que vous étiez. Alors là, il y a un grand blanc.
Bah oui.
Mais quand vous aviez 17 sur 20, elle disait que vous aviez 19. Donc elle ne vous aimait pas tel que vous étiez. Donc si vous voulez, c'est difficile de s'aimer quand on était dans un environnement qui fait qu'on ne s'aime pas.
Alors ça fait quasiment un an qu'on est confiné, déconfiné, qu'on vit une situation assez particulière et on va aborder l'intelligence du temps. Et vous dites qu'il faut arrêter de se projeter dans l'avenir. Mais pourquoi? Car
pourtant, on essaie d'imaginer des vacances, on essaie d'imaginer un temps sans Covid. Quoi. Mais vous dites
on a envie de se projeter.
Mais c'est très philosophique, ça s'appelle le télos et le scopos. Ça va être un peu compliqué, mais grosso modo, si je me projette dans un but à obtenir dans la vie, si je veux atteindre un but, je me crée une tension. Parce qu'en fait, imaginez qu'on veuille aller à New York. Et vous me dites, Christophe, il faut absolument qu'on arrive pour l'émission de 15h. D'Europe 1 à New York le 22 avril. On va prendre un bateau, mais il y a des vents contraires. Il peut y avoir un rescapé qui fait naufrage. Il peut y avoir un vent relatif qui nous recule.
Une épidémie de Covid sur le bateau,
donc,
et tout s'arrête.
Une épidémie de Covid. On peut se battre pour Mélanie tous les deux, par exemple. Allez savoir.
Mille
donc,
trucs.
Imaginez que si vous êtes « je veux atteindre ce but », vous vous lancez un défi dans lequel vous n'avez pas le contrôle. Si vous visez le but, c'est différent. La seule chose qui compte, c'est vous vis-à-vis de vous.
Donc le seul temps qui est important, c'est celui du présent, vous dites. Pourquoi?
Mais bien évidemment. Mais parce que le reste, ça nous
donc
échappe.
Donc en fait, je ne dois pas me projeter sur « on va faire une émission à New York », c'est là où on fait une belle émission, on est content, et c'est ça qui compte, c'est ça?
Par contre, vous pouvez viser le fait qu'un jour, vous vouliez faire une émission à New York, et vous pouvez être sûr qu'elle arrivera beaucoup plus rapidement que si vous voulez absolument la faire. Fuis ce qui te suit, et suis ce qui te fuit.
L'intelligence du temps, c'est ce qui nous permet aussi d'adapter notre façon de travailler. Il y a un temps pour le travail et il y a des moments où on ne doit rien faire et ça fait du bien et on a besoin des moments où on ne fait rien.
Vous faites un exercice avec un verre d'eau. J'adore cet exercice, ok? Vous mettez un verre d'eau et vous laissez tomber un petit peu de grenadine. Le verre d'eau, il ne fout rien. Hein, il fout rien, le
non,
verre d'eau.
Ça, bon.
Au bout d'une heure, le verre, il est rosé. C'est-à-dire, en ne faisant rien, on fait énormément de choses. On est constitué de 85% d'eau. On a la mémoire de l'eau. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'il faut être dans l'action pour être dynamique. Mais pas du tout. Les grands penseurs, ils sont totalement dans lâcher prise. Mais ça vient de l'accélération, de l'architecture, de l'automobile, etc. Vous savez, les Haussmann qui faisaient ces grandes avenues pour que tout aille plus vite, et la téléphonie pour que tout aille plus vite. Ben non, on n'a pas le contrôle de ce temps. Le seul contrôle que nous ayons, c'est non pas le temps perçu, mais le temps vécu. Qu'est-ce que nous vivons là tous les trois? Ici et maintenant. Il n'y a que ça dont nous avons le contrôle. Demain, dans une minute, dans cinq minutes, c'est de l'espérance.
Très bien. Christophe Bourgois, on est dans le présent. On va continuer cet entretien dans quelques minutes.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Vous êtes sur Europe 1 dans son rendez-vous. Il nous accompagne cet après-midi. C'est vous, Christophe Bourgois. Je rappelle que vous êtes psychopraticien spécialiste du comportement humain et qu'avec vous, donc, on parle de ces 10 intelligences que nous avons tous, celles avec lesquelles nous naissons même donc sans le savoir, parce que Jimmy et moi, on découvre, hein, on en a 10 et 10, ça fait 20 à nous deux, là, c'est énorme. On va passer justement à une autre intelligence. Donc, on a parlé de l'intelligence relationnelle, de la musique. Là, on va parler de l'intelligence de la nature, l'intelligence à la nature. Cette aptitude qui nous permet de nous nourrir et de protéger les animaux. Alors, c'est important d'en prendre soin, notamment pour la planète, évidemment, mais aussi pour nous, pour rester le plus longtemps possible en vie.
La nature, c'est clé, bien évidemment. C'est une des premières intelligences aussi à laquelle on a été confronté. Puisqu'encore une fois, je prends cet exemple, on sort de notre grotte, il va falloir qu'on invente l'élevage, qu'on invente l'irrigation. Donc la vie naît, grosso modo, aux confins du Tigre et de l'Euphrate, grâce au limon. Le limon permet, c'est une forme d'argile.
Même Jimmy, gros citadin qu'il est, depuis toujours, il a cette intelligence de la nature, vous êtes sûr?
Bien sûr qu'il l'a. Ouais. C'est en nous. Rappelez-vous, lorsqu'on était enfant, on aimait les oiseaux, on aimait cueillir des choses, on aimait... Souvenez-vous des graminées avec leur rosée dessus quand on courait avec nos jambes nues pour aller à la plage ou à la campagne, ces piqûres d'insectes, toutes ces choses, ces parfums de miel, ces parfums de vendanges, ces bruits de machinisme agricole. D'ailleurs, vous savez que maintenant, c'est déposé. On n'a plus le droit de s'attaquer à des bruits d'abeilles, à des bruits de moteurs, tout ça grâce à un coq. Vous connaissez l'histoire,
bien sûr, l'histoire du coq, bien sûr.
L'histoire du coq de l'île de Léron.
Ouais, tout
donc
fait.
Tous ces bruits de la nature sont maintenant protégés. L'odeur du purin est protégée, on ne peut plus porter plainte. Et qu'est-ce que c'est bon? D'ailleurs, pendant le confinement, vous prenez une application comme BirdLab, elle a explosé. Les gens voulaient écouter les oiseaux, voulaient comprendre les oiseaux. Les gens, l'intelligence de la nature, c'est aussi bien se nourrir. Ce sont les circuits courts. Il faut faire attention au sucre qu'on prend par rapport à la volonté. Ça, c'est l'intelligence de la nature. Mmh. Les Anglais, ils savent très bien manger. Les petits pois, machin, tout ça, c'est du bon sucre. Le bon sucre, c'est la volonté. C'est essentiel.
Et vous écrivez justement que la nature, elle sert de réservoir d'inspiration et d'innovation. D'ailleurs, comment est-ce que vous nous conseillez de nous inspirer de la nature? Comment est-ce qu'on fait de profiter, d'essayer d'avoir de l'inspiration de la nature, ça paraît un peu
abstrait. Pour qu'elle nous donne quelque chose.
Mais ouais, parce que déjà, Jimmy, dans notre ego, on pense qu'à construire grand, big, et small is beautiful. Et si, je ne sais pas, moi je m'arrête devant une termitière, devant un jardin, je sens les plantes et je regarde, j'essaye d'entendre les plantes pousser. Beaucoup de gens font ça. Un type comme François Pinault, il embrasse les arbres une fois par semaine.
Ah, dis donc.
Parce qu'un arbre, ça tient ouais. Le coup. Voilà, ça tient le coup, dit-il.
Vous croyez qu'il y a des gens très bien qui embrassent les arbres.
Et c'est pas le seul. Raphaël Nadal, puisque vous le citiez, a une intelligence de la nature incroyable. Il adore la plongée sous-marine. Ça le vide, ça le connecte à une autre échelle du temps, à une autre échelle des choses. Mais rien qu'autour de nous, ne serait-ce qu'un pot de fleurs, s'arrêter chez un fleuriste, s'arrêter pour offrir une rose à Mélanie, par exemple. C'est magnifique, la dimension que ça a. Et vous avez donc ce qu'on appelle les intelligences fractales, qui font partie de l'intelligence naturaliste et spatiale, où on commence à raisonner comme la nature a créé des choses. Par exemple, j'ai un ami architecte, il a étudié deux plaques de latérite en Afrique. Eh bien, au milieu des deux plaques de latérite, il y a toute une vie. Il y a toute une humidité, il y a de l'ombre. Et il s'est dit, et pourquoi on ne construirait pas comme ça? Etc. etc. Effectivement, les boudelles d'avion sont inspirées de boudelles de certains cormorans. Le Shinkansen a été au Japon initié par également le bec d'un oiseau. Il y a énormément à prendre dans
Arrêtons
la nature.
Arrêtons-nous, regardons-la davantage et inspirons-nous surtout d'elle. Alors, cette intelligence de la nature, elle passe aussi, vous l'avez déjà un petit peu dit, par l'alimentation,
ouais.
Le manger sainement. Et vous avez rencontré, je crois, un champion de hockey qui a retrouvé sa volonté en mangeant mieux. Racontez-nous.
Bien, en fait, il était complètement paumé, il n'avait plus de volonté ni rien, et il bouffait des mars et il buvait du coca. Donc, à un moment donné, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé des bons glucides, c'est-à-dire que le matin, on a fait très attention à ce qu'il prenait, parce que ce qui est génial, je voudrais juste que vous écoutiez cette anecdote que j'adore. Aux États-Unis, imaginez qu'il y a des gens qui méritent entre 5 et 10 ans de prison, d'accord? Ils sont jugés par des juges. Si les juges ont pris du bon sucre, ceux qui sont jugés entre 9h du matin et 10h30 du matin, ils prennent 5 ans de prison. Ceux qui sont jugés entre 10h30 et midi, ils prennent 10 ans de prison. Parce que la volonté, c'est comme une vessie. Vous tirez dessus, et il faut la recharger avec du sucre. Donc en fait, idéalement, il faudrait grignoter tout le temps. comme les champions de tennis. Pourquoi est-ce que vous croyez qu'un Rafael Nadal, encore une fois, ou à d'autres, il s'arrête et il mange des choses entre quand il change de côté? Mais c'est pas pour être fort physiquement, c'est pour avoir de la volonté. Il y a un lien direct entre, et Jimmy va nous le dire, entre le sucre, les neurotransmetteurs.
J'avais arrêté les gâteaux, je vais reprendre hein, toute la journée.
Non, le bon sucre.
Ah oui, non,
j'ai
pas
dit,
les gâteaux alors, ouais, d'accord.
Les fruits.
Oui. Les oléagineux, c'est bon ça aussi.
Etc.
Mais justement, vous avez une autre anecdote à propos du taux de glycémie, le taux de sucre qui pourrait aussi influencer notre self-control. À propos d'une histoire d'une serveuse dans un avion.
J'adore cette histoire parce qu'en fait, et en plus elle est véridique, c'était sur un vol effectivement qui allait à Djibouti et à La Réunion et il y avait un Anglais très anglais avec un costume trois pièces comme ils savent le faire, Prince de Galles. Il était en première classe et à l'époque, en première, on arrivait avec un chariot et on découpait des le gigot par exemple. Donc l'hôtesse de l'air s'approche de l'Anglais, elle lui dit « Est-ce que vous voulez une tranche de gigot, sir ?» Et l'Anglais dit « Bien sûr », etc. Et au moment où elle coupe la tranche de gigot, il y a un trou d'air et la tranche de gigot tombe sur la poche de l'Anglais. Et l'Anglais est flegmatique. Il se lève, il replie le Times, il ouvre sa poche droite et il dit « Would you mind to put the vegetables in the other pocket, please ?» Est-ce que vous voulez bien mettre
les légumes
dans l'autre poche? Un Français aurait dit « Compagnie de merde,
oui, pilote de merde !»
C'est une habitude bien se nourrir. C'est presque, vous voyez, chez les Anglais, oui, c'est statutaire.
C'est pour ça qu'ils ont du self-control davantage que
l'eau. Le thé, les petits gâteaux, les œufs brouillés, les petits pois, tout ça, c'est que du bon sucre. D'où leur flegme.
Vous dites aussi qu'on peut créer du lien grâce à la nature. Vous avez un exemple dans une ville en Essonne, justement. Alors, je vois une histoire de station de ski, d'animaux en ville.
Bah, c'est toujours mon maire,
qui fait des arrêts de bus sur l'autoroute. Il a fait quoi d'autre?
Non, bah, lui, il fait un truc de dingue. C'est qu'il a des lamas, il a tout un tas d'animaux un peu bizarres, enfin, pour la région. D'accord. Donc, il a une espèce de zoo. Et en fait, il loue ses lamas qu'il amène dans des carrioles pour tondre les gazons des terrains des gens, par exemple. L'hiver, effectivement, il organise une station de sport d'hiver.
Il plante des arbres à chaque naissance aussi. Hein.
Et il plante des arbres à chaque naissance.
Donc, ouais, la nature, là, elle est...
Ben oui, il a tout compris.
Elle est là.
Alors, pour parler de l'intelligence existentielle, vous accordez un chapitre dans votre livre sur l'acceptation de la mort. Et la pandémie montre, on oublie parfois, que pour vivre, il faut aussi mourir.
Mais là, je rejoins beaucoup Comte Sponville, c'est-à-dire qui est un très très grand philosophe à mes yeux, contrairement à certains en ce moment qui essayent de la ramener parce qu'ils sortent des livres. Comte Sponville, il dit quelque chose de très juste. Il dit que si on veut apprécier la vie, il faut qu'on accepte la mort. Et en même temps, cette vie, elle est géniale parce qu'elle nous permet justement, grâce à nos intelligences, de nous réinventer, de ressentir la vertu des contraintes. Ok, on est immobilisé. Ok, c'est compliqué. Ok, on est obligé de mettre des masques. Mais on peut se réinventer derrière tout ça. On l'a toujours fait. Et l'intelligence de la mort, c'est d'abord l'intelligence de la vie. Et c'est parce que je sais que je vais mourir que je vais apprécier la vie d'une manière géniale.
Et parfois, cette peur de la mort, elle permet de rapprocher aussi les humains. Vous avez une anecdote avec un commissaire de police.
Ben c'est un commissaire de police que j'aime beaucoup, qui s'appelle Olivier Bourde, qui d'ailleurs va devenir le responsable des, je crois que c'est la Coupe du Monde de rugby. Et lui, effectivement, la peur de la mort, que ça soit avec les gens qu'il arrête ou au sein même de son équipe, ils font des barbecues pour se fédérer, etc. Oui, ça fédère. Les hôtesses de l'air sont fédérées par la peur de la mort. Il y a beaucoup de métiers qui sont fédérés par la peur de la mort.
On a beaucoup parlé justement de l'intelligence relationnelle et parfois de l'intelligence artificielle si on prend des réseaux sociaux. Est-ce que vraiment on crée du lien social avec ces réseaux ou à l'inverse, est-ce qu'ils nous isolent?
Alors ça, c'est un vrai débat que j'ai eu avec, entre autres, quelqu'un que j'aime beaucoup, qui est le président de Google Europe, qui était le président de Google Europe, Carlo D'Assaro. Et je me suis un peu fâché avec lui, parce que lui, c'est normal, c'était un Googleman,
ouais,
donc
oui.
vive les réseaux, etc. Moi, j'ai une posture, pas arrêtée, mais assez convaincue que la plupart des réseaux ne créent pas de la relation, ils ne créent que de la connexion. Et que ce qui est important, ce n'est pas d'être connecté avec Facebook, la terre entière, c'est de ressentir les choses. L'idée, c'est d'être dans le ressenti. Nonobstant, quand j'ai interviewé Frédéric Mazzella, le fondateur de Blablacar, ou quand j'ai interviewé des gens d'Uber, c'est incroyable comme ces gens ont créé du lien, en fait. Avec le chauffeur Uber, il sent si il peut vous parler ou pas, si vous faites la gueule, si vous êtes emmerdé ou pas. Ils ont aidé beaucoup de vieillards qui
étaient en difficulté. Ils ont une intelligence relationnelle qui est impressionnante, ces chauffeurs privés.
Blablacar, il a raison de le dire, Frédéric. C'est le premier psy de France. Vous circulez, parce qu'en plus, il n'y a pas de eye contact. On est l'un à côté de l'autre pendant 5 heures. Et donc, j'ai effectivement improvisé un dialogue dans ce nouveau livre entre deux personnages pour montrer, en fait, que c'est de la psy ambulante.
Christophe Bourgois, un grand merci en tout cas de nous avoir accompagnés cet après-midi, de nous avoir guidés vers ces ressources dont on dispose tous en nous, hein, mais qu'on a parfois finalement du mal à mobiliser. Alors pour ceux qui voudraient en savoir plus, je rappelle votre livre « Les secrets de vos 10 d'intelligence pour redonner du sens à votre vie » paru aux éditions First. Merci encore Christophe.
C'est moi qui vous remercie.
Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
Votre émission Santé, Bien-être sans rendez-vous, c'est tous les jours, de 15h à 16h. Nous sommes très heureux de vous accompagner cet après-midi encore. Et à présent, nous allons parler avec vous, Jimmy, des bienfaits du rire sur notre santé en général. Avant ça, on va vous interroger sur le sujet. Hein. Comment pensez-vous que finalement les fous rires agissent concrètement sur notre organisme pour lui faire du bien? Avez-vous une idée de contre quelle maladie le fait de rire souvent pourrait bien nous protéger? Notre reporter Valentin Piovesan a été vous interroger sur ce sujet. On écoute tout de suite son micro. Trottoir.
Oh non, moi je rigole jamais, moi. Je rigole souvent, ouais, avec mes potes, même avec la famille, hein, c'est important de rigoler.
Oui, très souvent. Bah, par exemple, là je rigole. Donc oui, beaucoup.
De rigoler souvent? Ouais. Pourquoi?
Ça a un impact sur le cœur et le cerveau, ça augmente la durée de vie, parce que ça relance le cœur déjà quotidiennement, et puis même ça fait du bien à la tête tout court.
Rigoler, ça doit libérer des hormones bonnes pour l'organisme.
Je suis contente de rigoler, ça me fait plaisir, c'est souvent avec mes amis que je rigole, donc c'est du bon temps que je passe, c'est important pour moi, ouais.
Ah bah c'est essentiel, c'est tous les jours et plusieurs fois par jour.
Ça aide à se sentir mieux, à éviter d'être triste ou de se sentir seul.
La joie c'est une hormone, si j'ai bien compris mes cours de SVT, donc forcément oui, ça a des répercussions sur la santé, puisque du coup le corps se porte mieux.
Jimmy, une bonne nouvelle à présent pour nous. Nous, on rit souvent, donc c'est pour ça qu'on est, bien, qu'on se sent bien. Alors justement, on va parler du rire en général. On en a tous besoin, ça nous fait du bien, ça c'est certain. Mais en plus, ce petit plaisir serait bon pour notre santé. On rit combien d'ailleurs de fois par jour? J'en sais rien, en
alors,
moyenne.
On rit en moyenne 20 fois par jour et les enfants 10 fois plus.
Nous, c'est plus, hein, je crois que 20
nous,
fois.
C'est un peu plus, exactement. Ouais. Alors c'est quelque chose qui existe même chez les animaux. Les chiens rient, les singes aussi, mais aussi les rats.
Ah bon?
Lorsqu'on chatouille des rats, ils émettent des petits ultrasons.
C'est une expérience que vous avez menée.
Non,
vous
mais
avez
c'est un truc scientifique, mais pour de vrai. Donc c'est-à-dire que c'est propre à tout le monde et c'est même inné.
D'accord.
L'apparition du rire vient avant même le langage. Dès 3 mois, un enfant, un bébé, va sourire aux anges.
C'est
et donc
les voix
dorment
comme ça, c'est trop mignon. Et ça rit, effectivement. Alors quand on chatouille les bébés, justement, puisqu'on en parle, même les grands d'ailleurs, quand on nous chatouille, on rigole, mais pourquoi ça marche pas quand je me m'auto-chatouille?
Bah, c'est simple, vous avez dans votre cerveau une partie qu'on appelle le cervelet, qui va prévoir le mouvement de vos doigts. Et il va entraîner un signal pour bloquer la zone du cerveau qui perçoit cette stimulation. Et donc, le plaisir des chatouilles repose sur la surprise. Sauf que quand vous chatouillez tout seul, bah
oui,
évidemment,
je sais que
la
je vais
surprise
faire. Bon,
est gâchée.
Il n'y a pas de surprise. Alors, on va rentrer quand même dans le vif du sujet. Quels sont les pouvoirs miraculeux du rire sur notre santé, plus particulièrement sur notre cerveau? En quoi ça nous fait du bien?
Alors, c'est peut-être le meilleur antistress naturel. Ça va vous permettre de libérer des hormones, des endorphines, qui vont avoir une action anxiolytique, antidépresseur. Ça va activer aussi le circuit de la récompense avec de la dopamine. Et en plus de ça, on sait, le rire est contagieux. Souvenez-vous, on nous avait dit
c'est
que...
C'est une bonne épidémie.
Et oui, c'est une bonne épidémie. Dans des séries, souvent, on met des rires car c'est contagieux. Et en
c'est
plus
vrai.
De ça, ça peut soulager notamment la douleur, on le sait, avec les clowns dans les enfants qui viennent justement apaiser leurs maux lorsqu'ils sont hospitalisés.
Les clowns dans les hôpitaux pour les enfants, c'est ça, oui, tout à fait. Et je crois qu'il y a même des études, Jimmy, qui montrent que le rire aurait un intérêt presque thérapeutique chez des patients qui souffrent de démence ou de maladie d'Alzheimer.
Exactement, c'est Sylvie Chocron, qui est neuropsychiatre, qui a écrit justement dans son livre « Une journée dans le cerveau d'Anna », que je vous recommande, que ça permet d'apaiser notamment les malades atteints de la maladie d'Alzheimer. On sait que dans le cerveau, lorsqu'il y a une blague, eh bien, vous allez déclencher une partie qui va être responsable du plaisir. Il y a un lien fort entre plaisir et rire.
Très bien, merci beaucoup Jimmy pour cet éclairage amusant, mais c'est du sérieux, hein, c'est du scientifique tout ça.
Sans rendez-vous, 15h, 16h sur Europe 1. Mélanie Gomez et le docteur Jimmy Mohamed.
La santé et le bien-être, c'est sur Europe 1 et nous sommes avec vous depuis 15h. Toujours à mes côtés, bien sûr, le docteur Jimmy Mohamed. Et elle entre en scène tous les jours à la fin de cette émission. C'est Catherine Blanc, sexologue et psychanalyste à Paris. Catherine, aujourd'hui, on a une question de Lionel que je vous lis tout de suite avec ma femme. Nous avons un couple d'amis qui nous fait régulièrement des allusions sexuelles. J'ai vraiment peur qu'il nous propose un plan à plusieurs. Comment dois-je réagir si la situation se présente? Alors bon, peut-être qu'ils vont rien leur proposer, mais admettons, Catherine, ils ont l'air quand même plutôt gênés. Comment réagir si ça doit arriver? Alors bon, déjà, on verra bien si ça arrive, mais si ça arrive, ils vont faire quoi?
Alors d'abord, avant de dire qu'est-ce qu'on va faire si jamais, je trouve intéressant l'idée que parce que des gens font des allusions sexuelles, que ça amène à cela. Parce qu'en réalité, on est dans une société aujourd'hui où les gens se croient du devoir de parler de sexualité pour prouver qu'ils sont
cool,
qu'ils sont hyper ouverts, qu'ils sont hyper détendus, qu'ils sont hyper épanouis, etc. Ça ne veut pas du tout dire qu'ils sont prêts à partager.
S'il le faut, ils n'ont pas du tout prévu de faire un plan à plusieurs.
Ils partagent leur leur idée d'eux-mêmes, leur idée de compétence et pas nécessairement leur lit. Et puis, il y a une autre chose, c'est que quand on pense que l'autre, parce qu'il nous sourit ou parce qu'il nous parle ou fait des allusions de la sexualité, est en train de nous allumer, ça pose plutôt la question du besoin que nous avons de voir systématiquement les rapports sexués. Et donc, si on me regarde en me souriant, c'est bien sûr qu'on me désire. Si on me regarde et qu'on est en train de me parler de sexualité, c'est bien sûr qu'on nous désire, le couple. Et ce n'est pas toujours le cas.
Attention.
Parfois, ce sont nos propres projections. Pardon,
oui, mais il y a une frontière peut-être entre parler de sexualité. C'est vrai qu'on vit dans une société où on parle beaucoup de sexe, mais faire des allusions sexuelles. Là, si le couple...
On parle de triolisme ou de choses comme ça, peut-être.
Oui, peut-être que là, il y a vraiment quelque chose. Donc, comment est-ce qu'on désamorce la situation? Est-ce que si c'est des amis, il faut leur dire cash, mais on risque de les brusquer? Donc, c'est compliqué.
Je crois que plus c'est simple, mieux ça passe. C'est-à-dire, je vois bien. C'est vrai.
On va passer le message qu'on n'est pas ouvert pour des plans échangistes. Ouais, comme ça, sans leur dire, vous allez nous proposer quelque chose, on le sent bien, alors que c'est faux, peut-être.
Oui, ou sans dire même jusque-là, en disant, je comprends bien qu'il y en ait qui adorent ça. Moi, ça serait pas du tout mon truc, par exemple. Mais effectivement, c'est une idée super. Et puis, c'est bien que les gens s'éclatent d'une manière ou d'une autre. Mais moi,
ça,
franchement...
Tout le monde passe pour des gens cool.
Voilà, et puis... tout le monde est cool. Moi, c'est pas mon truc, mais je suis géniale. Toi,
c'est peut-être ton truc, mais t'es géniale aussi.
On dit même pas que c'est ton truc. Ouais. C'est peut-être le truc de certains. Et ça, c'est super, tant mieux pour eux.
Mais est-ce que c'est pas maladroit de faire des... Même s'il n'y a pas de proposition derrière, n'est-ce pas maladroit de faire des allusions sexuelles lorsqu'on est avec des amis? Est-ce qu'on ne casse pas un code de l'amitié? Est-ce que cette frontière est dépassée lorsqu'on commence à faire... pas des propositions, mais des sous-entendus un peu particuliers, ou c'est libre à chacun? Peut-être qu'on n'a pas tous la même définition de l'amitié.
Et puis en plus, vous soulevez une question qui est une question plus générale, Jimmy, c'est que finalement, aujourd'hui, on est toujours dans la crainte de tout ce qui pourrait apparaître comme étant une invitation, une allusion à une possibilité derrière. Or, il faut bien sortir du bois à un moment. C'est vrai pour la drague, c'est vrai. C'est-à-dire que si, parce qu'on a des amis, on ne peut pas parler de sexualité parce que je désirerais un de mes amis et que je voudrais lui montrer qu'il me plaît, si je ne peux pas l'évoquer, il ne le saura jamais. On restera tous enfermés dans nos boîtes à chaussures les uns et les autres. Donc, évidemment qu'on sort du bois. La question, par contre, qui est inappropriée, c'est quand, évidemment, je vais... dire alors que l'autre montre des signes évidents de résistance et que je suis lourdingue à vouloir rentrer dans son univers où j'impose mon intimité dans son intimité. Et c'est là qu'en effet, comme vous le dites très justement, nous n'avons pas les mêmes notions d'amitié, puisque là, c'est de l'envahissement de l'intimité, la subtilité de l'autre.
Et justement, s'il devenait trop insistant, c'est ce couple d'amis qui peut-être, on n'a pas le détail exactement des propos, mais c'est peut-être qu'ils insistent effectivement sur leur désir d'un jour partager des choses avec d'autres, etc. Et qu'un jour, ils en viennent à leur en parler. C'est peut-être aussi un moment d'arrêter cette amitié, peut-être, hein, parce que finalement, on cherche pas du tout la même chose.
On n'est pas obligé d'arrêter, mais on n'est plus cash. On dit, écoutez, je crois bien qu'il y a des choses qui vous plaisent beaucoup, mais nous, ça nous ennuie.
Ça
on a
nous
envie
met
de
mal à l'aise aussi,
et puis
le dire.
Et on a envie de parler d'autre chose. Sinon, on est dans de l'exhibitionnisme, et du coup, on met l'autre dans une position de subir. C'est exactement comme l'exhibitionniste du jardin public qui impose la vue de son corps, la vue de sa nudité ou de son sexe, alors que l'enfant ou l'adulte n'a pas du tout le souhait d'y être confronté. C'est aussi vrai chez nos amis, avec nos amis ou avec notre fratrie ou avec nos parents. Pareil, il y a des parents qui seraient nus dans l'environnement. On peut pouvoir dire aussi qu'on ne le souhaite pas, que ce n'est pas de son désir et c'est gênant pour soi.
Et la sexualité entre amis, ça reste à bannir ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, je vais pas dire renforcer une amitié ou malgré tout faire que on reste toujours autant amis si jamais on décide de passer le cap d'un plan à...
Ah, je sais pas combien, 4, voilà.
C'est sûr que, en fait, c'est un peu, vous vous souvenez, quand les adolescents disent je ne veux pas sortir avec lui parce que c'était mon copain, quand on sera plus ensemble, on pourra plus se voir, etc. C'est sûr qu'il y a une histoire
commune. Je préfère qu'on reste amis.
Voilà, je préfère qu'on reste amis parce que je voudrais pas abîmer cette amitié. C'est sûr qu'à partir du moment où on a partagé une intimité, la question n'est pas ce qu'on a partagé, c'est ce qu'on aura loupé. Ou comment on se sera arrêté. Et c'est ce comment on se sera arrêté qui fera qu'on aura toujours cette histoire entre nous, ou ce qu'on aura loupé qui fait qu'on aura toujours cette histoire entre nous et qui peut évidemment rendre l'amitié un peu plus compliquée. Mais si après il y a des gens qui sont tambour battant dans la liberté de leur sexualité pour un temps X et il y a un début, une fin et ils sont paisibles et ce fut un moment joyeux de leur vie,
pourquoi pas.
Et là c'est liberté chérie, dans la mesure où ce sont des gens consentants
très
et adultes.
Et des adultes, voilà. Merci beaucoup Catherine pour ces précisions, merci pour vos conseils. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se retrouve bien sûr demain dès 15h.
C'était Sans Rendez-vous avec Cyclamed. Hors période de confinement, rapportez en pharmacie vos médicaments non utilisés. Qu'ils soient périmés ou non, Cyclamed les collecte et les valorise. Plus d'infos sur cyclamed.org.
Tout de suite, place à Stéphane Bern et Mathieu Noël avec Historiquement Vôtre. Ils vont nous raconter l'histoire sans se la raconter. Bonjour Stéphane, bonjour Mathieu.
Bonjour Mélanie.
Aujourd'hui, un peu de poésie dans ce monde.
Mais oui,
de
des poètes disparus. Alors, Pierre de Ronsard, le poète des princes et le prince des poètes. Serge Gainsbourg, dont c'est le 30e anniversaire de la disparition, hélas. Et vous avez choisi... Un autre poète.
Bah, vous avez quand même vu le cercle des poètes disparus.
Oh, j'ai adoré ce film.
Il y a Robin Williams, acteur légendaire, qui nous a quittés en 2014 déjà.
C'est triste.
Et alors, il a eu une vie magnifique, pleine de succès, mais il est mort d'une maladie terrible qui n'a été diagnostiquée qu'après son décès, une sorte de démence qui l'a poussé au suicide. Ça ne sera pas la chronique la plus rieuse, mais ça sera une chronique émotion.
Ça sera plein de poésie.
Très bien, merci beaucoup messieurs. Jimmy et moi, nous serons au rendez-vous. Et vous aussi, je vous le conseille, restez sur Europe 1.